Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Indonésie, cinquième partie. Ahmed restera une étape importante dans notre voyage, pas tant parce qu'on y a fait, mais par une rencontre qu'on a faite dans un restaurant la veille de notre départ. Un resto qui est juste derrière la maison, que Sophie avait repéré. Et quand on arrive, il n'y a plus que de la place sur une grande table d'hôte. Et une table d'hôte, c'est une table qui est partagée avec d'autres personnes qui sont là. Et quand on s'installe, on s'impose un peu parce qu'il y a un monsieur qui est assis tout seul. Et puis nous, on est sept, donc on lui dit bonsoir et on vient compléter la table avec lui. Et comme nous, on est un nombre impair, Daniel s'assied en face de cet homme. Il n'a pas l'air bavard tout de suite, mais je pense qu'il est un petit peu timide ou impressionné. Mais très vite, Daniel engage la conversation avec lui. Et lui demande s'il est ici en voyage ou en vacances. De fil en aiguille, on en apprend davantage sur lui. Alors ça nous fait beaucoup rire, mais il s'appelle Santiago et il vient du Chili. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait sourire. Et surtout, il nous explique qu'il est ici pour un mois et puis qu'ensuite il ira voyager un autre mois, mais qu'il travaille ici et là. En fait, c'est un travailleur plutôt nomade. Et son activité consiste à vendre des tapis qu'il fait tisser en Inde dans un atelier vraiment haut de gamme d'artisanat local. Daniel, il s'intéresse beaucoup à ce que lui explique Santiago. Il lui pose pas mal de questions sur le business parce que c'est vrai que lui commence à réfléchir à ce qu'il pourrait faire en rentrant en France. Et là, ce qui l'interpelle, c'est que Santiago déjà lui dit qu'il y a de la clientèle haut de gamme pour ses produits qui sont des produits de belle qualité faits dans des ateliers de manière éthique avec des beaux matériaux. D'ailleurs, ces tapis, le dernier qu'il a vendu, il l'a vendu 28 000 dollars et ce n'est pas un tapis pour marcher dessus. Le client l'a accroché sur son mur. Ce sont des tapis qui se suspendent. Et Daniel creuse un petit peu les détails du business, mais il se dit ouais, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir s'appuyer sur du bel artisanat local et de pouvoir s'adresser à une clientèle qui demande ce type de produit. Parce que c'est vrai que depuis le début de notre voyage, ce que l'on voit, c'est que la marchandise chinoise est omniprésente partout. C'est assez impressionnant de voir que tout est fabriqué en Chine. Quand on regarde les marchés locaux, il y a une grande majorité des produits qui sont fabriqués en Chine. Nous, on arrive un peu plus à faire la différence avec l'artisanat local. On nous a un petit peu expliqué comment identifier de l'artisanat local. Souvent, il y a des petits défauts. Les choses qui sont vraiment parfaites, notamment en tissage, on a pas mal fait d'ateliers de tissage. Si le tissage est parfait, qu'il n'y a pas un défaut, ça veut dire que ça a été fait sur machine de manière industrielle. Ça fait un peu rêver de voir qu'il y a du bel artisanat local qui peut s'exporter auprès de personnes qui en ont les moyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma famille, j'ai un de mes oncles qui a créé il y a 25 ans une entreprise qui vend des produits de déco pour la maison en laine des Pyrénées et en cuir français. Et cette entreprise, Daniel la suit depuis longtemps. Et à chaque fois qu'on va passer un moment avec mon oncle, on en parle, il prend des nouvelles de l'entreprise. Ouais, c'est un business qui l'intéresse. ça l'intéresse parce que c'est de la matière, c'est made in France, ce sont des belles des matières nobles. Et Daniel, voilà, c'est quelque chose qui lui plaît. Du bel objet fait avec des beaux matériaux français. Et ce sont des matériaux et des produits qui sont sobres. Ils ont une forme de sobriété, mais qui ont un côté haut de gamme et qui s'adressent à une clientèle haut de gamme. Et là, cette rencontre avec Santiago, ça déclenche une forme de synchronicité pour Daniel. Espèce de heureux hasard, coïncidence. Mais après le dîner, il dit non, mais moi, ça me... Vraiment, je repense à l'entreprise de Philippe. Ça me plaît vraiment. Je me souviens lui avoir dit que si un jour il décidait de vendre, qu'il me le dise. Il avait dit qu'il n'était pas vendeur, mais j'ai envie de m'investir dans cette société. Je crois qu'il faut que je lui dise. Et quelques jours plus tard, Daniel, il rédige un mail qu'il envoie à Philippe pour lui faire part de son envie de s'investir dans la société en question. Et puis voilà, nous, on poursuit notre voyage. Pour se rendre à notre prochaine étape sur l'île de Guilière, il faut prendre un bateau. Cette île, elle se situe entre Bali et Lombok. Et là, il n'y a pas de bateau au départ d'Ahmed, il faut qu'on descende à Padang Bai. Donc avec le concierge du Airbnb dans lequel on loge, il nous organise les chauffeurs. Donc on a deux chauffeurs pour nous emmener au port. Et puis aussi les billets de bateau. Alors c'est un peu confus au niveau des horaires, mais comme un peu tout en Asie, on fait confiance et on sait que ça va fonctionner. Et donc nous voilà partis avec nos voitures et on demande au chauffeur de nous arrêter pour déjeuner dans un restaurant. Mais alors on insiste sur le fait qu'il doit être non touristique parce qu'on s'est déjà fait avoir une fois sur un des transferts. On a demandé à faire une pause déjeuner et là on nous a emmenés dans un resto pour touristes. Donc c'était très cher, pas très bon et on s'est senti un petit peu piégés. Et donc là, on insiste. Alors, ils nous disent « Vous êtes sûr, vous êtes sûr ?» Et on finit par s'arrêter. Alors, ils nous le font valider. Ils disent « Venez voir. » Et on s'arrête au bord de la route dans un boui-boui qui fait du cochon grillé. Et on dit « Oui, c'est ça qu'on veut. » Et donc, c'est un peu surprenant parce que même les locaux, ils n'ont pas l'habitude de voir une famille comme ça de 7 Européens s'asseoir dans ce restaurant. Et en fait, on se régale. Qu'est-ce qu'on mange bien ? Évidemment, pour pas grand-chose. Et là, on est content parce que nous, c'est vraiment ça qu'on vient chercher en voyage. On arrive ensuite au port. Et là commence une très, très, très longue attente. C'est un bazar dans ce port. Il y a je ne sais combien de compagnies qui font les traversées de bateaux. On ne sait jamais trop quelle est la compagnie qui va nous emmener, nous. Quand les bateaux commencent à arriver, il faut qu'on identifie le nôtre, mais on est tous serrés comme des sardines. On essaye de se trouver un coin d'ombre sous le haut vent du ponton, mais en même temps, on est très serrés. Il faut laisser de la place pour que les gens viennent avec leurs bagages, rejoignent leur bateau ou débarquent. Franchement, c'est pas agréable et quand on essaye d'avoir des renseignements, on se fait un peu envoyer péter quoi, par les responsables des bateaux. Enfin, on finit par rentrer dans un bateau. Et là, donc c'est un bateau, on rentre par une petite lucarne, on s'assied en contrebas dans une espèce de grande cabine principale. On est très nombreux, il fait hyper chaud. Et là, il y a une nouvelle oppression qui se met en place parce qu'on est encore à quai, on y reste longtemps à quai. Les bagages, ils sont... Alors, les nôtres sont à l'avant du bateau et puis parce qu'on, en fonction de l'île dans laquelle on débarque. Et là, il y a tout un tas de vendeurs et vendeuses ambulants qui se collent aux fenêtres du bateau pour vendre et des boissons et des choses à manger. Et les mains rentrent et sortent et ils vous alpaguent en permanence. C'est très oppressant, puis surtout le bateau est très plein. Moi, je me sens vraiment pas bien. Et puis, on n'a pas réussi à tous s'asseoir au même endroit parce que on s'est pas précipité les premiers pour rentrer dans le bateau. On est serré. Et puis le bateau démarre finalement Et il va assez vite, c'est un speedboat. Donc on a pris un speedboat pour que la traversée soit plus rapide. Mais voilà, ça tape pas mal sur les vagues. Le gars va hyper vite. De temps en temps, il y a des petits virages. Et moi, franchement, je me sens pas bien. Alors c'est pas que je me sens mal, j'ai le mal de mer, c'est que je suis inquiète. J'ai une forme d'anxiété qui monte. Et je sais pas si c'est lié à une angoisse de quand j'étais petite. Mais j'ai toujours eu cette peur du bateau qui coule. Et d'ailleurs, j'avais peur petite quand on faisait les traversées en ferry pour rejoindre l'Angleterre pour voir mes grands-parents. Mais voilà, j'ai ça en moi. Et là, surtout, j'ai mes enfants avec moi. Donc, je me sens ouais, vraiment mal. La traversée, elle dure 1 heure et demie. Et donc, je prends sur moi, je respire, je fais mes exercices de sophrologie que je sais faire. Et clairement, en état d'esprit, je me retrouve dans le même état d'esprit que quand on avait pris le bus de nuit en Inde, où je me suis sentie en insécurité avec mes enfants, mais qu'à un moment, il faut lâcher prise parce que je ne peux pas prendre le volant, moi, du véhicule. En tout cas, on fait un premier stop au bout d'1 heure et quart sur une île, et là, il y a la majorité des passagers qui descendent parce que c'est l'île des backpackers, l'île des festifs. Et là, on peut monter sur le pont pour s'aérer et on finit le trajet là-haut et on respire. On est vraiment soulagé. Et clairement, quand on redescend du bateau avec nos bagages à la prochaine étape, moi, je me sens libérée. On est un peu échaudé d'avoir été traité comme du bétail ces 4 dernières heures. Mais après 10 minutes de marche, quand on pousse le petit portillon du jardin de nos hôtes, on est trop content. C'est un jardin tropical qui est très joli et dedans il y a plusieurs bungalows. Nous on a 3 bungalows, 2 bungalows pour les adultes, un pour les enfants, avec des matelas sur la terrasse extérieure pour se détendre, un hamac. Bon, on sent qu'on va être bien pour les 2 prochains jours. Ce qu'on apprécie énormément sur cette île, c'est que tout se fait en véhicule non motorisé. On se déplace en vélo. Alors il y a aussi les petites charrettes qui sont tirées par des chevaux, mais nous on préfère pas emprunter ce moyen de transport. Et donc on loue des vélos et on sillonne l'île. On va se faire des bons petits restos de plage. On se baigne et puis on fait aussi du snorkeling, ce qui nous permet d'apercevoir des tortues. Et ouais, c'est farniente, fort agréable. Pour se rendre à Lombok, il faut qu'on prenne un bateau. Et comme on a été très contrariés par notre traversée pour venir à Guilière, on voit avec notre hôtesse et elle nous trouve un copain pêcheur qui, moyennant finance, nous emmène à Lombok. Et il n'y a pas photo, de toute façon, niveau prix, c'est quasi la même chose que si on prend un billet public du port. Et c'est quand même tellement plus simple. Et surtout, comme on n'est pas à côté du port, on a beaucoup moins à marcher avec nos bagages. Donc on se fait cette traversée trop sympa avant d'arriver à Lombok où on passe les 5 prochains jours. On sera en voiture à Tete Batu et on a choisi cet endroit parce que bon, c'est au milieu des montagnes, c'est très beau, mais surtout on est accueillis par Ir et Mou qui nous ont été recommandés par Selina et Luca, des copains allemands dont on a fait la connaissance au Laos et puis qu'on a revu à Florès. Et on sait qu'on va vivre un moment chaleureux et authentique avec eux pendant 3 jours. Ils ont 2 chambres d'hôtes avec 2 lits doubles chacun et une petite salle d'eau. Et c'est accolé à leur maison, donc c'est vraiment chez eux. Et dans leur jardin, il y a une terrasse couverte en bambou avec des hamacs, une table et des chaises pour pouvoir prendre les repas. Ir et Mou ont une petite fille qui doit avoir 4 ans et ils vivent en famille hein, dans cette maison, en famille élargie. Et ils font chambre d'hôte et table d'hôte également. Ir est très attachant, il est tout petit, il a un regard rieur, il est très gentil et il parle un anglais excellent. Il organise des sorties guidées dans le secteur. Ça fait partie du concept, donc ils nous disent ce qu'il peut nous proposer. Et puis sa femme Mou, elle cuisine et elle propose aussi de passer du temps en cuisine avec elle pour pouvoir cuisiner auprès d'elle de la cuisine indonésienne. C'est une expérience qu'on vit dès le premier soir. On est plongé dans leur vie familiale. On va dans la cuisine et là, ben, c'est la cuisine comme on faisait au Laos, quoi. On est assis sur des tout petits tabourets sur de la terre battue dans la cuisine. C'est assez sombre. Et puis, on râpe, on coupe, on mélange, assis en cercle dans des plats qui sont à même le sol.
You can board in the village. And the day after, if you want to do tour village also, we go to the local market and bamboo craft and hand weaving village.
La cuisson se fait ensuite sur deux plaques à gaz qui sont sur un côté de la cuisine. Et Mou, elle a beaucoup de plaisir à nous expliquer ce qu'elle est en train de faire, d'autant qu'elle ressent que nous, on adore cuisiner et on est hyper intéressés par tout ce qui se passe. On se régale d'un curry de poulet, de tempeh frit et de noodles aux légumes, comme on se régalera de tous les repas que nous fera Mo. Et en parlant de ces repas, il y a un fait particulier, c'est qu'on est en plein Ramadan, donc les horaires aussi des repas vont être un peu calés sur l'organisation du Ramadan. Pour le matin, il n'y a pas de contrainte particulière parce que Ir et sa famille vont rompre le jeûne vers 4h30, donc il n'y a pas d'impact sur notre petit déjeuner. Tandis que pour le soir, ils vont rompre le jeûne vers 18h30 et donc après, ils reviennent et ils demandent un petit temps forcément pour faire la cuisine. Donc on cale nos horaires de dîner sur 20h à peu près, de manière à ce que Ir et sa famille aient le temps de rompre le jeûne et ensuite de préparer le repas. Et d'ailleurs, cette notion de Ramadan, côté repas, ça ne nous pose pas de soucis, mais c'est vrai que d'un point de vue sonore, c'est quelque chose qui va nous oppresser pas mal sur cette île de Lombok. C'est qu'on est dans une vallée, il y a beaucoup de montagnes autour, beaucoup de mosquées, et en fait, on entend la mosquée du matin jusqu'au soir, et du soir jusqu'au matin. Évidemment, il y a régulièrement l'appel du muezzin, mais il y a également des prises de parole pour lire le Coran, parce que ce que nous explique Ir, c'est que pendant la durée du Ramadan, il faut lire le livre sacré, qui est très épais, et que là, on est en fin du Ramadan, et sur les derniers jours, ben, il faut rattraper ce qu'on n'a pas eu le temps de lire, de manière à pouvoir avoir fini quand le Ramadan sera fini. Et on entend jour et nuit ben, ces prises de parole qui sont faites sur des micros assez puissants. Et c'est vrai que cette présence importante et imposée nous dérange un peu. Pour Daniel, les enfants et moi, on a une forme d'habitude parce qu'on a déjà vécu ça en Asie, mais pas de manière si présente, si constante. Et c'est vrai qu'au bout de quelques jours, quand on veut se relaxer après une journée de randonnée dans un hamac, et que ça repart, ça vient prendre le dessus sur le champ des grillons de nuit, et c'est vrai que c'est un peu pesant.
C'est qui est en résonance avec une autre mosquée.
Il y en a deux.
Bon, les nuits sont donc pas extra parce que le volume sonore est assez élevé. Et puis nous, on a un gecko qui habite dans la salle de bain et qui fait un bruit. Mais je pense qu'il faut avoir entendu le son du gecko une fois dans sa vie. Ça fait un truc qui aboie un « eh ah, eh ah » qui est super, super fort. Et il le fait à peu près 7, 8 ou 9 fois. Et ça peut vous faire sursauter en pleine nuit. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un Petit Tour et puis changeons. Ça vous a plu? Venez écouter l'épisode 23 sur la fin de notre voyage en Indonésie. À bientôt!